Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue. Suite et fin de la série de podcasts sur Martha Moxley, un meurtre à Halloween. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller écouter les épisodes précédents. L'enquête sur la mort de Martha Moxley, assassinée le 30 octobre 1975, est à l'arrêt depuis plus d'une décennie. Mais en 91, alors que l'attention est à nouveau dirigée sur la famille Skakel, le père, Rushton, engage un détective privé pour rassembler des preuves permettant d'innocenter ses fils et de trouver un autre responsable. Pourtant, cela va avoir tout l'effet inverse. L'enquête des détectives met en exergue les mensonges de Michael, le pointant du doigt comme le principal suspect. Ce dossier nommé Rapport Sutton est bien entendu privé, mais une source anonyme l'envoie à la presse qui accuse Michael à la une dès le lendemain matin. Pour se défendre, il raconte qu'il a menti et que le soir du 30 octobre, en revenant de chez son cousin, il était excité. Il se serait donc rendu chez Martha, aurait grimpé dans un arbre près de sa fenêtre et se serait masturbé en pensant à elle. Un ancien détective, Mark Furman, rendu célèbre grâce à l'affaire O.J. Simpson, s'intéresse à l'enquête. Il publie même un livre en 1998, Murder in Greenwich, et dans cet ouvrage, il désigne très clairement Michael comme l'assassin de Martha après avoir eu accès au rapport Sutton. Et un mois seulement après sa sortie, le procureur Jonathan Benedict demande la constitution d'un grand jury spécial pour entendre à nouveau les témoins de l'affaire. Ils reçoivent alors de nouveaux témoignages, et notamment ceux d'anciens camarades de classe de l'école Elan, où était scolarisé Michael. Or, plusieurs d'entre eux révèlent qu'il leur a avoué avoir tué Martha. Le grand jury décide donc de l'inculper pour meurtre. Alors que le procès s'ouvre, la famille Skakel n'a aucune crainte, persuadée de l'innocence de Michael. De plus, aucune preuve matérielle ne le relie au crime. Mais pendant les débats, le procureur dévoile un enregistrement dans lequel on entend Michael dire
« Oh mon Dieu, est-ce qu'ils m'ont vu la nuit dernière ?»
Mais celui-ci a été monté et utilisé hors contexte car dans l'enregistrement original, il se demande si la famille l'avait vu se masturber le soir du meurtre. Mais pourtant, rien n'y fait. Le jury est scandalisé. Michael est condamné à 20 ans de réclusion en juin 2002. Pour les Moxley, c'est la fin d'un long calvaire. Après la condamnation, Bobby Kennedy Jr., le cousin du meurtrier, se bat pour l'innocenter. Il enquête pendant 6 mois et écrit un article dans le journal The Atlantic. Il y soutient que l'inculpation de son cousin fut déclenchée indûment par les médias et qu'un homme innocent dort désormais en prison. Après la publication de l'article, Kennedy déclare avoir reçu des centaines de lettres au sujet de l'affaire. Mais une en particulier a attiré son attention. Un ancien camarade de classe de Michael, Crawford Mills, lui dit que Tony Bryant, le cousin de la star de basket Kobe Bryant, a des informations sur le meurtre de Martha. Il affirme que deux de ses amis d'enfance se sont vantés de l'avoir commis. Ils sont allés à Greenwich à plusieurs reprises avec Tony, et l'un d'eux est devenu obsédé par cette fille. Ils auraient pris des clubs de golf qui traînaient dans le jardin des Skakel, et dit qu'ils allaient sortir et se faire une fille dans le style homme des cavernes. C'est-à-dire qu'ils allaient la frapper, sur la tête, et la traîner dans les buissons. Tony serait ensuite parti pour ne pas être mêlé à ça, et sa mère lui aurait conseillé de ne pas en parler publiquement, craignant qu'en tant que jeune homme noir à Greenwich, il soit la cible de poursuites judiciaires. Armés de ces nouveaux témoignages, les avocats de Michael tentent de faire appel, en vain. Un juge de la Cour supérieure rejette la demande et affirme que le témoignage de Bryant n'est pas crédible. Finalement, en 2013, Skakel obtient un nouveau procès par le juge du Connecticut, considérant que Michael Sherman, son ancien avocat, ne l'avait pas bien représenté lorsqu'il fut condamné en 2002. Il est donc libéré sous caution de 1,2 million de dollars. En janvier 2018, il est demandé à la Cour suprême du Connecticut de révoquer la caution de Skakel et de le renvoyer en prison pour qu'il puisse purger le reste de sa peine. Mais sa condamnation est au final annulée et un nouveau procès est ordonné. Ultime rebondissement en octobre 2020. Le procureur Richard Colangelo informe la Cour supérieure que le nouveau procès n'aura pas lieu. Le cas de Martha n'est donc à ce jour toujours pas résolu. Alors que Dorothy est satisfaite que le coupable ait été puni, la famille Skakel, elle, continue de se battre contre ceux qui salissent leur nom pointant du doigt une erreur judiciaire.